Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve le général Forget.
Canal Académie a le plaisir de recevoir aujourd'hui le lauréat pour l'année 2007 du prix Edmond Fréville, décerné par l'Académie des sciences morales et politiques. Et avant de présenter le lauréat, je voudrais dire un mot sur ce prix Edmond Fréville, qui est un prix ancien puisqu'il a été créé en 1903, et il était destiné à l'époque, je cite, à récompenser le meilleur travail original sur l'organisation, le régime ou le fonctionnement des ministères militaires, entre parenthèses, guerre ou marine. Cette formulation était bien sûr devenue un peu vieillotte et en tout cas très restrictive. L'aviation était absente, par exemple, c'est normal, nous sommes en 1903. C'était à la fin des années 1990 que M. Pierre Messmer, qui était alors secrétaire perpétuel de l'Académie, a décidé d'actualiser le prix et de le doter, alors que jusqu'ici, il ne l'était pas. Le prix récompense désormais des œuvres traitant directement ou indirectement de stratégie, et notamment de stratégie militaire, mais pas exclusivement. Le but recherché par M. Messmer était d'encourager les études se rapportant à de tels sujets. Je suis donc heureux de vous saluer, Marc Desfourneaux, vous qui avez été distingué cette année pour votre livre paru aux éditions L'Harmattan, intitulé « Force des armes, force des hommes ». Je me suis demandé, si je devais vous appeler monsieur l'ingénieur général, ou mon général tout court, comme c'est la règle pour les officiers appartenant aux forces armées. Et, de fait, à la lecture de votre curriculum vitae, votre parcours professionnel, il m'est apparu que les deux titres vous conviennent parfaitement. Ingénieur de l'armement, vous l'avez été, vous l'êtes d'ailleurs ô combien. Vous êtes entré à Polytechnique en 1957, vous avez fait ensuite l'école supérieure des poudres et explosifs, et vous avez servi en tant qu'ingénieur de l'armement à des postes importants, je ne vais pas tous les citer, j'en cite quelques-uns, comme par exemple l'Institut franco-allemand de recherche de Saint-Louis, le centre d'études de Gramma, où vous avez conduit des travaux pointus sur les implosoires, composants essentiels de nos armes nucléaires. Je cite également la direction des affaires internationales de la délégation générale pour l'armement, entre autres. Et vous êtes docteur en sciences. Mais si vous avez une carrière d'ingénieur de l'armement, vous avez aussi servi comme officier au sein des armées. Et d'abord, en tant qu'élève à Polytechnique, vous êtes porté volontaire pour un court séjour dans une unité opérationnelle en Algérie. C'était donc en 58 ou début 58. Mais auparavant, vous avez passé votre brevet de parachutiste militaire à l'école des troupes aéroportées de Pau. Et ceci a fait naître en vous une passion extraordinaire pour le parachutisme et un parachutisme de haut niveau que vous avez pratiqué pratiquement pendant toute votre carrière. Vous totalisez 4000 sauts, ce qui est quand même impressionnant. À votre sortie de l'IX, je reviens à votre carrière, en 1960, vous avez rejoint pour une deuxième fois l'Algérie pour servir, cette fois-ci pendant un an, titre de service militaire, en tant qu'officier, dans une unité de parachutistes et des artilleurs. Vous portiez le béret rouge et vous avez opéré dans tout le Constantinois pendant cette année. Et votre conduite vous a d'ailleurs valu une citation. Plus tard, du coup, dans les années 80, compte tenu de vos compétences scientifiques et techniques et de votre expérience proprement militaire, vous étiez nommé directeur de l'enseignement scientifique à l'école spéciale militaire de Saint-Cyr à Couëtquidan. Et surtout, en 1989, à la fin de la décennie 80, vous deveniez adjoint au général commandant la première armée, et plus précisément adjoint feu et renseignement, ce qui, dans la carrière d'un ingénieur de l'armement, est tout à fait exceptionnel et, je crois, est resté unique. Après avoir quitté le service actif en 1990, vous avez tenu différents postes d'ingénieur, notamment dans les Balkans, à Sarajevo, ce qui vous a conduit à vous intéresser tout particulièrement aux problèmes de ces situations de crise, comme celles que nous vivons actuellement depuis la fin de la guerre froide. Vous êtes aujourd'hui consultant sur des sujets se rapportant de telles situations. Et enfin, vous avez la passion d'écrire. Ça fait la deuxième passion. Vous avez publié une dizaine de livres à caractère les uns scientifiques, les autres techniques, les troisièmes historiques. Et surtout, on va le voir d'ailleurs, vous avez l'art de traiter des sujets les plus arides avec un humour qui détend le lecteur tout en donnant à votre propos une résonance forte. Alors parlons de votre livre, Force des armes, Force des hommes. Et d'abord, il y a tellement de choses, il faut un peu sérier les problèmes. Nous allons parler philosophie. Parce que dans ce livre, vous philosophez beaucoup, non seulement sur la force des hommes, mais sur leur faiblesse. Et vos réflexions vous font remonter d'ailleurs très loin dans l'histoire, presque jusqu'à l'époque des dinosaures. Vous nous rappelez, vous comparez, les animaux dotés par la nature même des moyens qui leur permettent d'assurer leur survie. Vous les comparez aux hommes qui, eux, sont nés faibles, n'est-ce pas, mais qui, grâce à leur intelligence, ont pu eux-mêmes se constituer des armes, des moyens pour leur survie, et du coup, vous nous rappelez qu'ils ont inventé les guerres et qu'ils ont inventé la course aux armements qui, pour vous, est inéluctable. On voit donc la force et la faiblesse. Et cette dialectique entre force et faiblesse de l'homme, et nous verrons aussi des sociétés, n'est-elle pas ainsi au cœur de toutes vos réflexions philosophiques?
Oui, tout à fait. J'ai toujours été frappé par le fait que l'on raisonnait en rapport de force et jamais en rapport, appelons-le, de faiblesse, c'est-à-dire de vulnérabilité. Or, pendant des années, des pays comme la France, mais mettons surtout les États-Unis et l'URSS, ont développé des armements de très haute technologie capables de leur faire mener une guerre du fort au fort. Alors, lorsqu'ils sont arrivés face à des conflits asymétriques, qui d'ailleurs étaient quelquefois des pots de banane lancés par le fort d'en face, comme le Vietnam ou l'Afghanistan, ils ont commis un péché d'orgueil, que j'appelle un peu le fait de regarder son nombril technologique dans le livre. Ils ont ce péché d'orgueil, c'est d'imaginer que du moment qu'on avait développé des armes du fort au fort, on n'allait faire qu'une bouchée du faible. Eh bien, le Vietnam, l'Afghanistan, aujourd'hui l'Irak, sont des exemples qui montrent que ça ne marche pas toujours. Pour un certain nombre de raisons, et d'une part, le fait que le rapport de force que l'on s'imagine avoir parce qu'on a des armements très perfectionnés n'est pas aussi grand que ça, et d'autre part, parce qu'il est il est contrebalancé par un rapport de faiblesse, de vulnérabilité. Mettons, si après le 11 septembre 2001, les Américains avaient voulu répliquer en détruisant des tours jumelles dans le territoire taliban, ils auraient été bien en peine de trouver un objectif comparable à ce qu'ils avaient eux-mêmes perdu. Donc, ils étaient vulnérables là où leur adversaire ne l'était pas. Et la non-vulnérabilité, c'est un paradoxe. La faiblesse est une force, au bout du compte.
Je vous remercie de ces précisions. D'ailleurs, on voit que de la philosophie, on tombe dans la stratégie. Et parlons quand même un petit mot sur la stratégie des moyens. Parce que vous venez d'évoquer, là, à l'instant, la haute technologie et la haute technologie des armements. Mais dans vos livres, vous en parlez beaucoup, mais vous prenez soin à chaque fois, de rappeler la place éminente de l'homme. Vous citez par exemple le général Patton qui a écrit « Les guerres se font peut-être avec des armes, mais ce sont des hommes qui les gagnent ». Et un peu plus loin, vous avez écrit dans ce style pittoresque qui est le vôtre, et d'ailleurs vous venez d'évoquer la phrase, « À trop contempler son nombril technologique, on risque d'oublier que la force d'une nation ne se résume pas à la force des armes. » Là, je crois que tout le monde est d'accord avec vous. Mais votre insistance sur ce point, est-ce qu'elle traduit de votre part le fait que peut-être vous subissez la haute technologie plutôt que vous de l'admettez? Cette haute technologie, elle nous vaut quand même des progrès fantastiques. Vous voyez, il y a un point de discussion qui me paraît très intéressant aujourd'hui.
Je dirais mieux encore, en tant qu'ingénieur, je devrais être un dévot de la haute technologie, mais précisément, j'en ai vu dans mon métier d'ingénieur, j'ai vu les limites de cette croyance en dans les vertus de la haute technologie. Et surtout, j'ai vu des raisonnements faux. Par exemple, on admet, on entend souvent dire que la haute technologie a éliminé l'homme dans la guerre. Et après la guerre du Golfe de 91, quand les missiles de croisière, etc., américains sont apparus, c'était un délire dans la presse et j'ai vu des titres du genre « La guerre, désormais, ce n'est plus qu'une question d'électronique ». Eh bien, les guerres suivantes, d'ailleurs, portées par cet enthousiasme, les Américains se sont engagés en Somalie quelques mois plus tard. Ils ont quitté la Somalie piteusement après un an où leur nombril technologique, précisément, n'a pas fait merveille. Alors, certes, il y a un certain nombre de cas où la technologie supplante l'homme. Il y a des guerres presse-boutons, etc. Mais en général, ce sont des guerres du fort au fort, pas du fort au faible. Dans la guerre du fort au faible, il y a l'effet inverse, c'est ce que l'on appelle l'effet égalisateur de la technologie. Je vais en prendre un exemple. La technologie a doté, enfin, elle a fait faire des progrès énormes à ce qu'on appelle le projectile par opposition à la cuirasse. La cuirasse n'a guère bénéficié du progrès technologique. Le piéton d'aujourd'hui, il n'est pas plus protégé que le piéton de l'Antiquité. En revanche, le fantassin d'aujourd'hui peut être équipé d'un missile anti-char ou anti-aérien tirable à l'épaulé. Et c'est un jeu que les Américains ont joué en Afghanistan en dotant les guerriers afghans de ce genre de missile. Et c'est grâce à ce genre de missile que dans une certaine... Oui, c'est largement grâce à ce genre de missile.
La haute technologie, la haute technologie se partage aussi. Et le faible en profite aussi, la preuve. Vous avez cité aussi...
En l'occurrence, c'est le faible en profiter plus, parce que avoir un missile anti-aérien, je ne vois pas à quoi ça aurait servi aux Russes, vu que les Afghans n'avaient pas d'armée de l'air. Donc, c'est le fait d'avoir des avions, des hélicoptères, qui étaient une force, eh bien, c'était aussi une vulnérabilité, puisqu'il suffisait d'un fantassin au sol pour descendre un avion, un hélicoptère. Donc, la technologie, dans un certain nombre de cas, a au contraire donné à l'homme un pouvoir démesuré. Elle avait, lors de l'apparition de la charge creuse au début de la Deuxième Guerre mondiale, on s'est aperçu qu'avec une charge creuse, un homme tout seul pouvait tuer un char de 40 ou 50 tonnes. Bon, ensuite, on s'est aperçu qu'un homme tout seul pouvait tuer un avion de combat et accessoirement un avion de ligne. C'est là, hélas, la dualité entre la guerre et le terrorisme. Mais un homme seul est aujourd'hui capable de détruire une ville avec une arme nucléaire amenée par un moyen de transport banalisé. Donc, la technologie, si elle a effacé l'homme dans certains cas, lui a au contraire donné un pouvoir absolument démesuré dans un certain nombre d'autres cas.
Je vous suis tout à fait. Il n'empêche que vous serez d'accord avec moi pour dire qu'aujourd'hui, y compris dans ces conflits asymétriques qui nous préoccupent beaucoup, qui c'est le sujet à l'ordre du jour, la haute technologie, pour le fort, rend quand même des services énormes. Regardez ce qui se passe en Afghanistan. Ce sont quand même des moyens de très haute technologie, des dispositifs aériens très complexes avec transmission extraordinaire, n'est-ce pas, qui font que, finalement, les gens sont attaqués avec une efficacité, ça leur tombe sur le dos, ils ne savent pas d'où ça vient. Et on peut multiplier les exemples. Cependant, pour aller dans votre sens, et ça ressort en tout cas très fort dans votre livre, et vous l'avez exprimé à l'instant, il ne faut pas, je crois, se laisser éblouir par la technologie. Et votre formule que je reprends, c'est précisément de récuser la formule « qui peut le plus, peut le moins ». Vous avez eu d'ailleurs quelques phrases de choc, je me permettrai d'en citer deux. « On peut avoir une tête thermonucléaire, avez-vous écrit, et des pieds d'argile ». Là, l'actualité nous le prouve tous les jours. Ou encore « On peut être capable de lancer des missiles aux antipodes, mais se retrouver obligé de faire la guerre avec un fusil. » C'est ce qui se passe aujourd'hui. Il n'empêche que la haute technologie, est-ce qu'on n'est pas obligé de la suivre?
Si on compare, par exemple, l'action du petit commando de la Deuxième Guerre mondiale, mettons, il devait faire sauter une cible stratégique très importante. Et bien pour ça, il avait une paire de jambes, enfin multipliée par le nombre de gens, et dans son sac, il transportait quelques kilos d'explosifs, et il fallait que ces quelques kilos, il les place exactement à l'endroit voulu pour les faire sauter. Et bien, aujourd'hui, pour le même poids transporté, au lieu de transporter des explosifs, on transporte un illuminateur laser qui permet à une certaine distance de faire atterrir sur la cible, non pas les misérables quelques kilos d'explosifs qu'on aurait pu transporter dans son sac, mais une énorme bombe ou missile avec quelques centaines de kilos d'explosifs. Donc, il est exact que la technologie a également beaucoup profité au fort. Cela étant, pour illuminer avec un laser, il faut quelqu'un. Et là où la croyance ou l'illusion l'illusion du fort est parfois de se dire qu'il peut s'en tirer par la voie aérienne, par un combat aérien. Pas le combat aérien. Il peut s'en tirer en utilisant des avions sans aller au sol. Eh bien, lancer des bombes de très haute altitude sans aller au sol, c'est très bien contre des objectifs d'infrastructure dont les coordonnées sont bien connues. Bon, là, il n'y a pas de problème.
Ce qui se fait tous les jours, d'ailleurs.
C'est ça, oui. Mmh. Mais si on veut tirer sur des objectifs mobiles, des gens qui se déplacent, etc., on ne peut pas les observer de 10 000 mètres d'altitude. Donc, inévitablement, on est obligé d'envoyer des gens au sol. Et c'est là que, dans une certaine mesure, qui peut le moins, peut le plus, celui qui n'a ni armée de l'air, ni quoi que ce soit, ça lui est bien égal que son adversaire ait des sous-marins nucléaires et des satellites tueurs. C'est lui qui impose son champ de bataille, et c'est le champ de bataille terrestre. Or, le champ de bataille terrestre, c'est le plus inhospitalier pour la technologie, si j'ose dire. D'abord, on ne peut que très très difficilement y robotiser les combattants. Contrairement à la guerre des étoiles, où au contraire, tout est robotisé. Mais dans l'espace, l'environnement est très facile à modéliser mathématiquement. La mission à réaliser est assez élémentaire. Donc, on met tout ça dans la tête d'un robot, puis ça y est. En l'air, c'est également vrai, mais dans une moindre mesure. Tandis qu'au sol, la complexité de l'environnement est telle, et la complexité en plus de la mission de combat, sont telles qu'on ne peut pas, jusqu'à présent, pallier et remplacer le cerveau humain qui a...
Ah ben ça, sans aucun doute, oui. Vous parlez du cerveau humain. Vous avez parlé du combattant au sol, le cerveau humain, il est au sol, il est en l'air aussi. Hein.
Mais on est obligé de descendre jusqu'au sol. C'est-à-dire l'illusion qui consiste à se dire on peut traiter un conflit uniquement à partir d'avions, à partir de l'air, ça ne marche pas, on est forcément, à un moment ou à un autre, obligé de mettre des gens au sol. Alors là, au sol, donc premièrement, on ne peut pas robotiser les combattants. Deuxièmement, les rapports de force ne sont pas ce qu'on croit qu'ils sont. Par exemple, on a des armes à très longue portée, des radars à très longue portée. Mais si on est dans un environnement chaotique, la longue portée, elle s'arrête à la lisière du bois. Hein? Donc, il y a un nivellement par le haut, les armes les plus efficaces cessent d'être très efficaces. Deuxièmement, du temps des guerres coloniales, on avait en face de soi des adversaires avec des lances et des sagaies. Bon, il était facile d'avoir un rapport de force important. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et grâce au pouvoir compensateur de la technologie, le pouvoir égalisateur de la technologie, on risque même d'avoir en face de soi des gens qui ont un énorme pouvoir. Et enfin, on est vulnérable dans la mesure où, si on répugne à mettre des gens au sol, c'est parce qu'on n'a pas envie de les perdre.
Je crois que dans votre livre, et sur ce chapitre où on parle de stratégie, même de stratégie opérationnelle, la conclusion très importante, c'est, je le répète, le rapport des forces n'est pas le seul critère de supériorité. Vous l'écrivez, il faut tenir compte du rapport des faiblesses ou des vulnérabilités. Et en particulier, vous donnez un exemple, vous dites que le jour où le grand ordinateur sera cassé, on n'aura plus rien du tout. Dans votre livre. Et alors, quand on parle de faiblesses, il y a les faiblesses des hommes, mais il y a aussi les faiblesses des sociétés. Et dans votre livre, vous abordez ce problème de nos sociétés démocratiques, humanistes, qui ont une éthique, ce qui fait, vous me l'avez écrit, ce qui fait leur noblesse, n'est-ce pas, et qui se laissent exploiter par d'autres, dont l'éthique n'est pas la préoccupation majeure. Et là, on retrouve encore la dialectique entre force et faiblesse. Et là-dessus, alors, vous développez beaucoup d'idées, vous dénoncez les pièges qui sont tendus à nos sociétés, la manie de la repentance, l'angélisme des discours, l'illusion des guerres propres, et enfin, la dictature c'est vous qui l'écrivez, la dictature du risque zéro. Et vous citez en particulier, je souhaiterais que vous puissiez revenir là-dessus, sur le problème des mines antipersonnelles.
Oui, le risque zéro fait partie des illusions. Et je crois, pour revenir un petit peu en arrière sur la guerre du Golfe en 91, les Américains avaient pour la première fois, de façon opérationnelle, utilisé des armes de haute précision. Et sur le moment, on s'est émerveillé devant ces armes qui ne faisaient que des effets collatéraux extrêmement réduits.
Oui, nous les connaissions, puisque nous en avions nous aussi.
C'est ça, c'était des... Bon, alors au début on s'est émerveillé, mais les effets collatéraux, ils ne sont jamais nuls, il n'y a pas de risque zéro. Et mais, très rapidement, les médias se sont habitués, se sont pris pour acquis le fait que les effets collatéraux étaient très réduits, et se sont remis à s'indigner sur les effets collatéraux résiduels, comme si le résiduel pouvait être annulé. Et c'est là que ça ne marche pas. Alors les mines, c'est un problème que je connais assez bien. Il y a eu une sorte de course aux armements entre les mines et les démineurs pendant pas mal d'années. Au début, les premières mines, elles contenaient beaucoup de métal. Bon, donc elles étaient relativement faciles à détecter. Alors, pour éviter qu'elles soient détectées, les fabricants de mines ont mis de moins en moins de métal, avaient des mines en plastique. Bon. Les détecteurs ont réagi, c'est-à-dire qu'on a fait des détecteurs de plus en plus sensibles pour détecter le peu de métal qu'il y avait dans les mines. Mais le résultat, c'est que à détecter des masses infimes de métal, on a commencé par détecter les capsules de boissons, puis on a détecté les clous et les bouts de fil barbelés qui traînaient, puis on a détecté, et puis on a fini par détecter absolument la moindre petite trace de métal, au point que dans certaines campagnes de déminage en Afrique, il y avait des taux de 1000 fausses alarmes pour une vraie alarme. Mmh. Alors, à partir de ce moment-là, le démineur, la vraie alarme, il ne s'en aperçoit même plus. Non seulement, dans ce cas-là, il est impossible, même pas de tendre vers le 0%, parce qu'à un moment donné, à force de développer la sensibilité des détecteurs, on finit par avoir tellement de fausses alarmes qu'on n'y voit plus rien du tout.
Et puis alors, il y a le deuxième aspect, c'est que dans ces mines antipersonnelles, des pays comme le nôtre, par exemple, oui, qui ont une discipline, une éthique, etc., on ne balance pas des mines n'importe où, et alors que nous sommes privés, par application des traités, de ce genre de mine qui peut être très importante, comme vous le dites, pour protéger nos sites sensibles, et Dieu sait si nous en avons, et alors que les autres pays qui, eux, n'ont pas d'éthique, eh bien, ils continuent à faire n'importe quoi. J'en arrive, si vous le voulez, à votre conclusion. Votre conclusion, elle est pessimiste. Vous vous demandez si l'homme sera en mesure de survivre aux excès de sa formidable intelligence. Alors, encore une expression qui est très forte. Et vous évoquez le développement inéluctable, selon vous, et c'est votre dernière phrase, de la génétique. Alors, je vous pose la question. Qu'entendez-vous par là?
D'après Darwin, il y a trois forces considérées. Bon, la force, la nature, est plus forte que toutes les espèces vivantes. Parmi les espèces vivantes, certaines sont plus fortes que d'autres. Ben, les lions mangent les antilopes. Et à l'intérieur d'une même espèce, il y a des individus forts et des individus faibles, y compris à l'intérieur de... Alors, on a tenu pour acquis pendant très longtemps les deux premières forces, c'est-à-dire que l'homme est devenu, s'est imaginé en tout cas, être devenu supérieur à la nature et supérieur aux autres espèces animales. Alors, par rapport à la nature, on est en train de s'apercevoir qu'avec la démographie explosive et le fait que la planète n'est pas illimitée, les ressources d'une part, la pollution d'autre part, nous imposent des limites. Donc la nature, on ne l'a pas vaincue, nous restons quand même asservis par la force de la nature. Deuxièmement, la force des autres espèces. Alors certes, par rapport à l'espèce lion ou à les espèces prédatrices qui mangeraient bien les hommes, nous avons développé des armements technologiques capables de nous rendre nettement supérieurs. Mais par rapport, par exemple, aux bactéries, aux virus, etc., ce sont des espèces qui évoluent au fur et à mesure que nous nous battons contre elles. Et jusqu'ici, nous menons une course-poursuite dont nous ne sommes pas forcément vainqueurs. Je n'en sais rien. Alors, comment faire? On développe des remèdes, tout ce que l'on voudra. Eh bien, dans le domaine végétal, que fait-on pour se défendre contre un certain nombre de parasites ou de bactéries? on fait des OGM.
D'où le développement de la génétique, qui est la conclusion.
Eh bien, je me dis que l'OGM humain, c'est peut-être la solution qui nous permettra de survivre aux bactéries, mais alors là,
nous verrons.
C'est une autre histoire, il faudra un autre livre.
Eh bien, voyez-vous, de la philosophie au début, nous sommes passés à la stratégie des moyens, puis à la stratégie opérationnelle, et nous concluons sur une réflexion d'ordre philosophique. Merci, mon général, monsieur l'ingénieur de l'armement, d'être venu cet après-midi. C'était Force des armes, force des hommes, de Marc Dufourneau.